franceinter.fr.
J'essayais de tenir, parce qu'on essaye malgré tout, que ce soit dans mon boulot de gendarme ou dans les collègues policiers, on essaie de garder une façade. Donc on garde tout pour soi, on extériorise rien. Donc même si on est face, on assiste à une autopsie, on va faire semblant que ça va, etc. Mais en fait, à l'intérieur, ça trotte et puis les angoisses montent. Et voilà, c'est un cumul de choses et après on en arrive au point où j'en suis aujourd'hui.
Pourquoi vous n'avez pas osé en parler à l'époque ?
Peur de paraître pour quelqu'un de faible, je sais pas, peut-être vis-à-vis des autres. On voit un médecin tous les ans, un médecin généraliste, qui voit si on est en bon état physique pour continuer le travail. Mais on parle jamais de choses psychologiques. Quasiment jamais. Moi, j'ai commencé à en parler quand ils ont été au courant de mes problèmes d'alcool. Donc on a commencé à en parler sérieusement avec un médecin militaire à Angers, qui était très compréhensif sur la chose, qui m'a beaucoup apporté. Et on commence à en parler quand on va dans les structures de soins.
Est-ce qu'il faudrait une cellule psychologique dans la gendarmerie ?
Oui. Ce serait, à mon avis, ce serait indispensable, comme on a un médecin par département, qui est une cellule psychologique par département aussi, pour recevoir les personnes, pas forcément sur du volontariat, mais que le médecin généraliste parle un petit peu de la psychologie et s'il en sent le besoin, d'orienter le gendarme ou militaire vers une cellule psychologique.
Ça vous aurait servi à quoi, cette cellule ?
Ça m'aurait servi à parler des moments difficiles, les moments qu'on garde pour soi, qu'on n'ose même pas parler en famille, parce qu'on va pas rentrer en famille, parler à sa femme, tiens, aujourd'hui j'ai fait une autopsie, quoi. Enfin, c'est ouais, de parler de ce qu'on a vécu, d'évacuer un peu tout ça, parce qu'on garde tout et du coup on n'a jamais l'occasion de l'évacuer et d'en parler.
Quand vous en avez parlé à vos chefs, est-ce que vous avez été désarmé ?
Non, j'ai continué le travail. En fait, j'ai été désarmé quand j'étais en arrêt maladie. Mais après, quand je reprenais le travail, je voyais un médecin et je récupérais mon arme. Et par contre, l'an dernier, je suis allé voir mon patron. Enfin, ils avaient l'impression que j'allais bien, je faisais semblant. Et puis un jour, je suis allé voir mon patron en lui disant « Écoutez, là, j'ai un problème, j'ai le moral qui retombe à zéro. J'ai peur de retomber encore plus bas. » Donc, je lui dis « je vais me mettre en arrêt et je vous donne mon arme parce que j'ai pas envie non plus. J'ai jamais eu d'envie suicidaire, mais... voilà, on entend trop de choses graves parce qu'on a l'arme à la maison, mais en tant que gendarme, quand on est d'astreinte, c'est l'arme dans un coffre à l'entrée de la maison. Donc j'avais pas envie de péter un câble. On sait jamais ce qui peut arriver. On a tous entendu parler de suicide au sein de la gendarmerie ou de la police. C'est facile quand on a une arme sous la main.
On va voir le taulier. Caroline Vaudieu.
Avec votre parcours, on vous imagine mal aux pièces de justice derrière un bureau pendant 2 ans.
3.
Et pourquoi ici, à la 2 ?
J'avais demandé le 36 ou la première, ils ont dit que j'avais du goût de luxe.
Parfait. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que tout se passera bien.
Ça ira bien, assurez-vous. J'ai pas bu une goutte depuis 2 ans.
Bon, je vais vous présenter le groupe. Alors lui, il a une tête de client, mais c'en est pas un. Capitaine Soleiman Berada, dit Solo, dit Bikounet, quand il n'est pas là.
Alors, d'après les dernières études, c'est un métier dont le risque... Il y aurait 36% de suicides en plus par rapport à la population nationale, tout profil confondu. C'est énorme. C'est énorme.
La police, c'est la profession la plus exposée au suicide. Pour autant, on a beaucoup plus parlé des suicides chez France Télécom, chez Renault.
Oui.
Vous pouvez l'expliquer ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications. D'abord, c'est délicat d'avouer qu'il y a, dans son propre secteur d'activité, beaucoup de suicides. Parce qu'obligatoirement, ça signifie qu'il y a une carence quelque part. Ça peut être une carence managériale, ça peut être une carence de formation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est difficile à admettre. Après, je pense que dans l'imaginaire collectif et dans la façon dont l'information est traitée, malheureusement, la police subit encore le regard. En disant, oh ben c'est les risques de métier, ben finalement, c'est pas grave. Non, mais c'est tout aussi grave. Oui, il y a des suicides dans la police. Oui, il y a des suicides dans l'armée. Oui, il y a des suicides dans la gendarmerie. Il faut arriver à en parler.
Mais la police, la gendarmerie,
c'est
l'armée...
Difficile.
Parfois, difficile. A du mal à en parler.
Un jour, un patient nous disait, l'armée est la grande muette et la police la grande sourde. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, l'administration... travaille à l'élaboration d'un plan santé et sécurité au travail. Donc ça veut dire que la surdité de jadis est de moins en moins vraie.
Ça fait un peu plus de 3 ans que vous êtes directrice du Courbat.
Oui.
Vous avez constaté une évolution.
Oui. Double évolution. La première, c'est cet état de déshérence sociale dont je vous parlais initialement. La deuxième évolution, je suis frappée par la tranche d'âge des policiers qui arrivent aujourd'hui au Courbat. Ils sont très jeunes. Ils ont entre, en moyenne, 25 et 30 ans. Et ce qui est aussi, ce qui semble assez nouveau, c'est la prise de médicaments avant de partir en opération et en rentrant. Nombre de policiers, et de toute façon nous le voyons, mais nous en parlent assez facilement, prennent des anxiolytiques avant de partir en opération. Alors soit des ordonnances, bien évidemment, qu'ils ont fini par obtenir, soit en prenant les médicaments qu'ils trouvent dans l'armoire à pharmacie de la maison.
Vous êtes arrivé à une époque où on parlait beaucoup dans la police de politique du chiffre.
Oui.
C'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu ici, à votre arrivée, de la part des patients ?
Beaucoup. La pression du chiffre, l'impression de ne pas être reconnu, la peur de ne pas atteindre l'objectif fixé qui les angoisse particulièrement. Et puis, pour eux, les évaluations ne sont faites qu'au niveau du chiffre et certainement pas au niveau de l'individualité, de cette petite chose singulière qui fait que le policier va se sentir reconnu par sa hiérarchie ou par ses collègues. Donc cette politique du chiffre a été très très difficile à vivre, et nous on l'a senti immédiatement. En tous les cas au Courbat, il est vrai que les policiers nous en parlent avec un accent d'anxiété majeure.
Tout ce qui est la politique du chiffre, la politique des bâtons, la politique de faire avancer les gars en disant « tiens, si tu travailles bien cette année-ci, tu auras peut-être la prime au mérite ». Mais en quoi un policier peut-il plus méritant sur une année par rapport à un autre, alors qu'il fait exactement le même travail ? Je vois pas. Moi, je fais mon travail, on me demande d'arrêter un voleur, j'arrête le voleur, c'est mon boulot, je suis payé pour. On me demande de rester dans une guérite pendant 6 heures pour surveiller un bâtiment, je suis payé pour, je suis pas payé plus, je suis pas plus méritant parce que je reste 6 heures debout dans une guérite qu'un collègue qui est dans un véhicule. Je vois pas en quoi je suis plus méritant qu'un autre.
Parce qu'il y a une fameuse prime au mérite aussi.
Il y a la prime au mérite, donc il y a une prime au mérite qui est mise en place. C'est 6 personnes par compagnie, par an, qui sont méritants. C'est le commandant de compagnie qui choisit ceux qui sont méritants. Et après, il y a des compagnies qui sont sur un listing, qui ont une prime générale.
Ça a créé de la compétition entre collègues ?
Oui, c'est flagrant. Quand je travaillais sur autoroute, on avait déjà un quota de timbrements à effectuer par mois. Et puis là, maintenant qu'on a rajouté la prime au mérite, c'est à celui qui en fera le mieux, le plus, et puis j'ai pas de dire, mais qui fait un peu du n'importe quoi, quoi. Qui ont encore des vieilles idées à se mettre en contrôle routier et faire ce qu'on appelle chez nous des bâtons, c'est faire un PV. Un PV, c'est un bâton, une procédure, c'est un bâton.
Et pour vous, c'est pas votre métier ?
C'est pas mon métier. Si nous, on est là pour sécuriser, on va dire, une ville, on n'est pas là non plus pour matraquer les gens, à part des procès-verbaux.
Donc ce que je comprends, c'est que votre métier a changé depuis quelques années.
Oui.
En quoi il a changé ?
Il a changé, on est devenu de plus en plus individualiste. Il n'y a plus trop de cohésion comme on le savait avant. Il y a beaucoup de choses qui sont dégradées, quoi. Nos façons de travailler ont changé. Et on n'est plus ce qu'on était avant. On n'est plus avant, franchement, les CRS, quand ils arrivaient quelque part, c'était autre chose, quoi. Les gens nous respectaient comme nous, on respectait les gens. Alors que maintenant, nous, on essaye de respecter les gens et on n'est pas respecté, quoi. Donc, c'est aussi si on est dans l'évolution des mœurs, des mentalités, on n'y peut rien, c'est comme ça.
Vous voulez le faire courir, vous pouvez dire trop trop et vous pouvez en même temps le
cuire.
Allez-y,
on avance.
Pour aller trop vite, c'est au trop et une trotte en même temps.
Au trop.
Alors, sans tirer dessus, voilà. Alors, pour l'attacher, vous avez une roue à ficelle comme ça. Et vous faites un nœud qu'on puisse retirer facilement.
Olivier, vous avez 40 ans. Vous avez longtemps travaillé au sein de services prestigieux de la police nationale. Alors, on peut simplement citer des services comme les renseignements généraux, le RAID, la police judiciaire. Maintenant, vous êtes dans un commissariat de province, dans l'ouest de la France. Vous avez donc, au cours de votre carrière, vécu beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Beaucoup de choses m'ont marqué. Ce ne sont pas forcément les interventions les plus violentes, les plus chargées d'adrénaline, mais il est vrai que j'ai pris des risques, j'ai pris trop de risques. Un exemple basique, une course-poursuite sur l'autoroute, un go-fast qu'on démarre en région parisienne, à l'improviste, hein, qui nous emmène à Barcelone. Sous une pluie battante, on se retrouve à 200 sur l'autoroute, on va dire voiture contre voiture. Et on les emmène jusqu'à Barcelone, et au retour, on se retrouve à Marseille, sur le périph'. Et là, j'ai failli avoir un accident grave, parce que on était à au moins 150 sur la bande d'arrêt d'urgence. Et cette dernière s'est réduite, il y avait un pont, un parapet. Donc plus de bande d'arrêt d'urgence, il y avait beaucoup de circulation. Et c'est l'exemple type où j'ai vu arriver la pile du pont, et on se rend compte qu'on va loin, qu'on va très loin.
Vous vous sentiez utile à l'époque ?
Je me sentais utile, et puis j'étais flatté par le fait que certaines interventions passaient dans la presse. On se dit qu'on a de la chance, qu'on est des privilégiés, qu'on est en haut de la spécificité du métier. Enfin, on a le sentiment d'être un bon flic. Mais c'est juste un sentiment. Parce qu'il faut encaisser tout ça. Il faut encaisser tout ça. Et un collègue qui faisait partie d'un service d'intervention, qui avait des soucis de famille et qui a fait plusieurs séjours en Afghanistan pour le ministère de l'Intérieur, et qui est revenu et qui a mis fin à ses jours. Parce que des problèmes familiaux, mais aussi des difficultés à encaisser le travail, l'adrénaline justement.
Qu'est-ce qui est difficile à encaisser ?
Les images. Pour moi, c'est les images. C'est ce qui me reste dans la tête. C'est des flashs. Vous êtes perturbé, vos soucis du quotidien basiques, comme ont tous les Français, vous empêchent des fois de dormir, puis bah vous pensez à votre vie, vous ressassez certaines choses, certains décès, certaines interventions difficiles, où ça a été dur de gérer, où ça a été dur de garder la face, d'être à l'image de ce qu'attend la hiérarchie.
Après toute cette période dans des services prestigieux de la police parisienne,
voilà.
Vous avez été muté par choix dans
par
un
choix.
Commissariat de province. C'était
voilà.
Pour vous rapprocher de votre famille. Mais là, vous avez découvert un tout autre aspect de votre métier.
Que j'avais oublié. J'ai fait un passage d'une année et demie en commissariat au début de ma carrière. Et donc là, je suis revenu en commissariat. Et donc, je me suis retrouvé à occuper une fonction qui n'est pas évidente aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, dans les services spécialisés, on souffre. Mais les collègues des commissariats souffrent également. Ils n'ont pas le beau rôle non plus. Et donc là, bah là, l'enchaînement de morts violentes, presque au quotidien, des suicides, enfin toutes les morts violentes, hein, des suicides, la route, les incendies, enfin voilà, des constatations, ce genre de choses, et donc les autopsies qui vont avec, et donc bah là, pas mal d'idées noires, pas mal de flashs, de photos dans la tête, de morts atroces. De gens décapités par un coup de fusil de chasse, de gens de pendus à décrocher, de familles à qui il faut annoncer la mort d'un proche, et ça très souvent. Et puis bah je suis tombé dans la dépression, puis la béquille de l'alcool, hors cadre professionnel, et le soir, en rentrant à la maison, et on monte crescendo. Ce qui engendre beaucoup de dégâts dans la cellule familiale. J'ai pas envisagé le suicide parce que j'ai toujours gardé à l'esprit que peut-être je m'en sortirais, que la vie est trop précieuse et que je veux pas la gâcher. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que j'ai une épouse que j'aime et des enfants que je veux voir vieillir. Et puis parce que j'ai trop souffert aussi du départ violent par un feu de collègues dans ma carrière. J'ai perdu 5 collègues avec qui j'ai travaillé en 20 ans. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc, je veux pas reproduire ça.
Emmanuel,
présent.
Lionel,
présent.
Romain,
présent.
William.
Présent.
Mickaël.
Présent.
Damien.
Présent.
Karine.
On déplore près de 45 suicides par an dans la police. Face à cela, l'ANAS a publié en fin d'année dernière un manifeste pour la santé et la sécurité au travail. À ce jour, en effet, il n'y a toujours pas de plan santé au travail dans cette profession. La DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, est donc partie de ce manifeste pour en élaborer un. Ce plan santé liste l'ensemble des dispositifs de prévention déjà existants. Par ailleurs, et c'est une première, des questionnaires ont été distribués aux policiers pour prendre le pouls de leur métier. Les résultats devraient être publiés en début d'année prochaine. La DGPN estime ne pas être en retard sur le sujet. Elle assure prendre ce problème du mal-être à bras-le-corps et salue le travail du courbat.
Maintenant, il faudrait des volontaires pour 15h30.
Ici, c'est une bulle. Je sais très bien qu'à un moment ou un autre, ça va me faire de tout drôle de partir d'ici. J'ai hâte de rentrer chez moi, ça je l'avoue. Hein, mais ça va me faire drôle de partir d'ici parce qu'on a... Tous les gens sont agréables, les gens sont à notre écoute. On est dans un cadre qui est fantastique. On travaille, on bosse, on ne va pas passer les journées, on fait du sport, on va pas dire poupounier, mais presque. C'est ce qui va peut-être me faire un petit mal au cœur en partant, en disant sur quoi je vais retomber, quoi. Parce que là, on est vraiment trop bien, quoi.
Qui vous a parlé du centre du courbat? Vous en avez déjà entendu parler?
Le courbat, chez nous, c'est connu, hein, c'est une institution en police. Le courbat, on le connaît. Moi, je le connais depuis que je suis dans la police, quoi. Tout le monde parle du courbat. Bon. C'est vrai que ceux qui partaient au courbat avant, c'était une étiquette dans le dos. On partait avec la grosse, grosse étiquette en disant attention, celui-là, il est pas bien. Hein. Tous les collègues qui, pour eux, dans leur tête, sont sains d'esprit et de corps, dès qu'on sort un petit peu du lot, qu'on est considéré, on va au courbat, on est considéré comme irrécupérable, alcoolique, terminé.
Et vous aviez peur de cette étiquette?
Oui.
Vous avez toujours peur?
Non. Mais maintenant, c'est un petit peu évolué, parce qu'ils ont commencé à comprendre que celui qui est alcoolique, c'est un malade, c'est pas... Ça se soigne. Difficilement, mais ça se soigne.
Comment vous envisagez votre sortie? Est-ce que vous avez envie de continuer à être policier?
Oui. Oui, mais bon. Ça reste peut-être pas jusqu'au bout. Parce que là, j'envisage de carrément tourner la page et partir dans la municipale. C'est une police beaucoup plus sympathique, moins astreignante, plus proche de la population. Pourquoi pas terminer ma carrière là-bas?
Alors moi, je vais continuer un petit peu. Je vais essayer de reprendre le travail un petit peu. Mais après, non, je vais me réorienter. L'an prochain, je vais prendre ma retraite. Et puis après, je vais passer le concours d'infirmier. Donc voilà, je change complètement.
Et pourquoi infirmier?
Et en fait, j'aimerais bien bosser un éducateur spécialisé, soit dans l'addiction, soit dans le sport.
Donc c'est votre propre histoire?
Voilà.
Qui finalement vous a fait aboutir à cette réflexion?
Ouais, complètement. Et puis après, si je m'en sors bien, essayer de travailler peut-être dans un centre comme ici, enfin, peut-être pas forcément ici, mais ou ailleurs, mais pour peut-être faire partager mon expérience.
Olivier, vous avez envie de continuer à être policier?
Oui, j'ai envie. J'ai envie parce que la police, c'est toute ma vie. Maintenant, il va falloir que je vais probablement me réorienter au sein de la police nationale. Peut-être me mettre plus au service des victimes ou faire des actions de formation. Et si je peux éviter de revivre des situations morbides, atroces, j'ai vécu 2 ou 3 carrières de collègues normaux. Et donc moi, j'ai eu ma dose. Donc pour l'instant, je suis encore dans la certitude. Pour l'instant, c'est me retaper et puis reprendre ma place professionnelle. Et puis essayer de tout donner aussi, quoi. Enfin, de continuer. De continuer.
Depuis ce reportage réalisé en 2014, Benoît a quitté les CRS et a été affecté à sa demande à un service de police secours, plus social selon lui. Il n'a pas retouché à l'alcool. Thomas a repris son travail de gendarme, mais prépare les concours d'infirmier et d'aide-soignant. Et Olivier, l'ancien super flic, est retourné dans son commissariat, mais il éprouve des difficultés et pense toujours à une reconversion. Policier des Bleus à l'âme, c'était un reportage d'Annabelle Wanek, prise de son Nicolas Mathias, mixage Jean-Michel Bernot. Pour parler des conditions de travail des policiers évoquées dans ce reportage, nous avons invité Nicolas Comte, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO, le syndicat majoritaire dans la police. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé depuis un peu plus d'un an, depuis la première diffusion de ce reportage ? Il semble quand même que le gouvernement ait un peu pris en compte ce problème de conditions de travail, des pathologies que ça peut déclencher.
Alors à la fois, il y a eu une prise de conscience et dans le même temps, il y a eu une augmentation des difficultés liées à une actualité que tout le monde connaît, qui impose une charge de travail et des rythmes de travail qui sont très compliqués. Mais c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience et qu'il y a eu, de la part du ministre de l'Intérieur, une politique très volontariste pour essayer de mettre en place un certain nombre de dispositifs. On a par exemple aujourd'hui une expérimentation qui est en cours sur la réforme des cycles de travail des policiers pour aller pour que les simplifier, que les gens comprennent bien. Le policier, de manière générale, il a tendance à travailler selon un cycle de 4-2, c'est-à-dire 4 jours de travail, 2 jours de repos, ce qui amène un week-end complet toutes les 6 semaines. De manière générale, il a tendance à voir ses week-ends souvent supprimés de par l'actualité, de par la nécessité du service qui doit être mené. Ce qui fait que ça a un impact sur la vie privée, ça a un impact sur la vie familiale. Si vous prévoyez 2 mois à l'avance, le jour où vous avez votre dimanche de faire l'anniversaire du petit dernier et que vous invitez toute votre famille, c'est très mal vécu si vous devez annuler ou ne pas être présent. Donc on a une expérimentation de cycle de travail qui est en cours et qu'on a pu mettre en place grâce à l'appui du ministre de l'Intérieur, qui consisterait à permettre à tous les policiers d'avoir un week-end sur deux et un mercredi sur deux.
Il y a aussi un dispositif renfort de psychologues pour pouvoir venir en soutien, notamment pour les problèmes de dépression. Et alors on parlait de suicide tout à l'heure. Cette année est encore une assez mauvaise année. Je crois qu'on en est à peu près à une quarantaine de suicides encore chez les policiers cette année.
On n'arrive pas à descendre depuis des années en dessous de... Alors c'est toujours horrible de parler comme ça de chiffres, mais effectivement d'un nombre de suicides qui est entre 50 et 40 quasiment tous les ans, avec des périodes de fin d'année ou de début d'année d'ailleurs plus généralement, qui sont les périodes les plus mauvaises pour le suicide. Alors, il y a une prise en compte de plus en plus de la part de l'administration et de la part de l'autorité hiérarchique, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là. Il y a la mise en place d'un réseau de psychologues qui font un travail très important et qui sont souvent extrêmement disponibles et qui sont des gens, souvent ce sont des femmes d'ailleurs, mais qui se donnent beaucoup dans leur mission. Mais pour l'instant, ça ne permet pas forcément de réduire de manière extrêmement sensible ce nombre de suicides importants dans la police nationale.
Il y a la question de l'arme de service, parce que parfois le suicide est perpétré avec cette arme de service. Il était question d'avoir des casiers pour la laisser, pour la laisser sur place. Ça fait sujet à débat pour vous.
Alors, le casier est une bonne idée. Nous, on s'est toujours opposé au retrait systématique de l'arme. C'est-à-dire le fait de dire à la fin du service, le policier, on lui retire son arme. Parce qu'on considère que soit quelqu'un est suffisamment, d'une part, responsable et fort psychologiquement pour pouvoir porter une arme, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il faut lui retirer son arme, y compris pendant le temps du service. On a des exemples de policiers qui, pendant le temps du service, s'isolent dans un coin et se suicident avec leur arme à feu. D'autre part, le retrait systématique de l'arme, c'est vécu comme quelque chose de très dévalorisant pour l'ensemble de mes collègues. Donc quelqu'un qui ne va pas très bien si en plus on lui retire son arme, ça peut avoir un impact. Par contre, beaucoup de mes collègues, mais là j'allais dire on était dans une période avant les attentats qu'on a pu connaître, beaucoup de mes collègues tenaient pas forcément à rentrer le soir chez eux avec leur arme à feu. Donc nous on a demandé, on a commencé à obtenir le fait de qu'on puisse mettre en place des casiers individuels qui fait que chaque policier le soir peut laisser son arme dans un casier sécurisé à son service. Maintenant la donne a changé parce que depuis notamment les attentats du 13 novembre, bon nombre de policiers portent leur arme en permanence.
Ça a dû changer beaucoup d'autres choses, ce contexte maintenant, les attentats, l'état d'urgence. Qu'est-ce que ça a changé au niveau des conditions de travail des policiers concrètement, d'autres que cette question de l'arme ?
Je crois que ces attentats, ils ont rajouté une difficulté supplémentaire qui est double, qui est à la fois une difficulté psychologique parce que notamment il y a eu évidemment tous les intervenants sur les scènes d'attentats et puis même pour ceux qui n'y étaient pas, il y a maintenant cette crainte présente et cette tension permanente liée au risque d'attaque terroriste et au risque pour des policiers qui n'étaient pas forcément préparés à ça, à être confronté à des scènes de guerre et à des actes de guerre. Et puis d'autre part, eh bien, la surveillance nécessaire, la protection nécessaire liée à cette menace a comme conséquence d'augmenter les charges de travail, de réduire les périodes de repos. Là encore, il a fallu un engagement personnel du ministre pour que, et ça a été ses instructions, tous les policiers qui le souhaiteraient puissent avoir ou Noël ou le jour de l'an en famille, mais ça ne permettra pas pour autant forcément à chacun de mes collègues d'avoir une longue période de vacances et de pouvoir partir. Ils vont pouvoir passer une fête en famille, mais les rythmes de travail sont extrêmement importants, avec des charges supplémentaires, avec des fatigues physiques supplémentaires, parce que quand on équipe un gilet pare-balles lourd, quand on équipe un pistolet mitrailleur, ça rajoute du poids. Donc on va dire qu'à toutes les difficultés qu'on connaissait auparavant, on a ces deux difficultés-là, psychologiques et physiques, liées à cette nouvelle menace terroriste.
Parce que les difficultés qui sont évoquées d'ailleurs dans le reportage liées aux effectifs, à la politique aussi du chiffre,
oui,
ce que certains appellent la bâtonnite, ça demeure, ça n'a pas changé ça.
Non, ça malheureusement ça demeure, c'est quelque chose de très important dans les processus de dépression de la part de collègues quelquefois, parce qu'il y a, je crois que quand on choisit le métier de policier, on a un véritable engagement. Alors quelquefois on peut y arriver par hasard, mais à partir du moment où on débute, de toute façon, c'est un engagement, parce qu'on s'engage dans plein de choses, on est confronté à plein de difficultés, et les gens qui choisissent de rentrer dans la police ont souvent une très haute opinion des institutions, de la justice, de l'institution police, du respect qui lui est dû, et le problème de la bâtonnite, le problème du chiffre, c'est que ça enlève toute intelligence au métier, et qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, se pose bien souvent pour mes collègues la question du sens qu'on peut donner au travail. Donc j'évoquais tous les sacrifices et toutes les difficultés que nécessite ce métier. Tant qu'on a l'impression que ces sacrifices et que ces difficultés amènent à une amélioration de la société et de la sécurité de nos concitoyens, c'est supportable. À partir du moment où on a l'impression que ça n'a plus aucun sens, à partir de là, ça devient très compliqué à gérer quelquefois psychologiquement. Et si en même temps on a d'autres difficultés dans la vie, eh bien on arrive à des situations quelquefois critiques.
Merci Olivier Comte d'avoir accepté notre invitation. Interception était réalisée comme chaque semaine par Anne Lioro. Zora Ben Smaili s'occupe de nos pages internet. Après le journal de 10h, vous retrouverez Eva Bester et son remède à la mélancolie. Bonne fête à tous et à dimanche prochain.
Merci Lionel Thompson. C'était Policier des Bleus à l'âme, un reportage d'Annabelle Vanek qui a reçu le prix Varenne des journalistes Radio 2015. Suivre Remède à la mélancolie, Eva Bester reçoit ce matin le typographe et designer graphiste Philippe Appelois.